Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Qu'est-ce qu'il se passe avec vous ?
Émission spéciale sur RFI.
Tiens, et pourquoi donc ?
Tirage au sort de la CAN 2019 en Égypte.
Sommes-nous revenus au temps des pharaons ?
Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Les pharaons régnaient il y a 4000 ans.
Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide ?
Suivez le guide.
Bienvenue à cette merveilleuse cérémonie. Nous sommes tous ici pour assister au coup d'envoi officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019.
Madagascar, la Mauritanie, DR Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire.
La CAN 2019, c'est parti dans un décor pharaonique. Le tirage au sort de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été effectué ce soir sous les pyramides de Gizeh au Caire et sous le regard du Sphinx. Les 24 équipes qualifiées connaissent désormais leur sort. Une information déjà, le match d'ouverture du 21 juin opposera l'Égypte au Zimbabwe. Nous allons bien sûr vous donner dans quelques minutes la composition des six groupes et les commentaires, les analyses, les pronostics de nos spécialistes 100% africains. Ce soir, j'ai nommé pour commencer Franck Simon. Bonsoir.
Bonsoir Eric, salut Nabil. Et salut Pat.
Ah, vous vendez la mèche, effectivement, ils sont là,
oui.
Les deux
tueurs de suspense.
Les deux indissociables, Patrick Juillard. Bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à toutes et à tous.
C'est Nabil Djellit. Bonsoir Nabil.
Bonsoir Eric, bonsoir Franck et bonsoir Patrick et bonsoir à Franck et merci de nous avoir présentés.
Voilà, on a été complet et puis
je passe les plats.
On salue Timo Baduel qui était à la réalisation et qui a effectué ce petit générique tout en humour et qui reflétait bien cette cérémonie donc que l'on a vécu tout à l'heure. On a vu nous à la télé, mais il y avait évidemment du beau monde sur place. L'équipe de Radio Foot International a commencé par Annie Gasnier que l'on retrouve au milieu des pyramides. Bonsoir Annie.
Bonsoir Eric et bonsoir à vous tous.
Notre grande prêtresse de Radio Foot, notre Cléopâtre qui a donc assisté à cette cérémonie. Le décor était
somptueux. Elle a
eu
le nez creux. Annie, c'est surtout Amon et Merveille.
Ah ouais.
Mais est-ce qu'elle a eu le nez creux ?
Ça démarre fort. Ça démarre fort. Ne vous laissez pas déstabiliser,
bonsoir,
ma chère Annie.
Bonsoir Annie. Bonsoir.
Bonsoir Annie.
Bonsoir les amis.
Et excusez-nous.
Alors vous êtes très bien entouré avec les pyramides autour de vous. On nous promettait, en tout cas pour cette CAN en Égypte, que l'Égypte a récupéré il y a quelques mois seulement, eh bien, le pays des pharaons voulait marquer le coup ce soir. Le décor, en tout cas, était grandiose, magnifique. Un grand spectacle était annoncé. Est-ce qu'il a tenu ses promesses à l'arrivée ?
Écoutez, plutôt, oui, le décor était magnifique. On avait cette pyramide baignée de rose, d'une couleur rose assez jolie. Et puis, évidemment, le sphinx dans sa couleur ocre qui nous regardait, qui nous observe toujours d'ailleurs. Il est face à moi, il n'a pas beaucoup sourcillé.
Il n'a pas bougé.
Tirage au sort. Non, non, il est toujours là. Bon. Et il n'a pas de nez. Hein, vous
en pierre et en os.
il était là. En tout cas, oui, il fallait que faire une belle fête, on va dire, pour que la fête soit belle ensuite. Et c'est vrai que là, eh bien, avec un feu d'artifice pour commencer et surtout pour saluer l'arrivée de la Coupe d'Afrique des Nations, cet objet doré qui fait rêver les sélections africaines et qui était apporté par Rigo Bersong, le Camerounais. Alors ensuite, il y a eu quelques discours, aussi une compagnie de danse autrichienne.
Pas mal de spectacles, hein, il n'y avait pas que les discours et le tirage au sort, enfin, c'était tout un spectacle avec des numéros. Enfin,
moi, je n'ai pas trop compris.
Exactement.
La compagnie autrichienne, en fait, ça m'a un peu surpris, j'étais un petit peu étonné par ce choix. Je ne suis pas là pour commenter, je suis plus là pour commenter les matchs de foot, les tirages au sort, mais si au niveau de l'orchestration, je n'ai pas compris la compagnie autrichienne.
Nous non plus, pas trop, ni nos confrères africains, mais il paraît que c'était une compagnie très connue dans le monde entier. Donc voilà, bon, ça a été un petit moment, mais c'est vrai que surtout, eh bien, du côté des staffs, du côté des entraîneurs qui étaient derrière les officiels, eh bien, on rongeait un peu son frein et on attendait, eh bien, qu'enfin Anthony Baffo, qui était responsable de l'organisation de la compétition, il était entouré ensuite de Mustapha Hadji, de El Hadji Diouf, de l'Égyptien Ahmad Assad et surtout de Yaya Touré, le champion ivoirien de 1995, lui qui était chargé de répartir les équipes du chapeau 1, eh bien, elles sont enfin rentrées sur la scène, ces personnes, pour effectuer le tirage au sort.
Ça a mis un petit peu de temps avant d'arriver, quand même. Il y a eu quelques temps morts, quelques petits couacs quand même. Comment c'était sur place véritablement ?
Ça courait dans tous les sens, ça s'invectivait, il y avait beaucoup de nervosité effectivement. J'étais avec notre ami béninois Félix Pépéripé et on voyait bien qu'il y avait quelques petits moments où ça n'allait pas trop. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, ça a duré à peu près une heure. Et puis tout d'un coup, eh bien, ça a donc commencé. Je peux vous dire qu'à la fin de la cérémonie, alors certains et ceux qui sont en général, qui aiment bien les médias, sont venus nous voir et les autres sont dans une salle de restaurant, pas très loin de la scène, et ils sont tous là en train de manger pour mieux digérer le tirage au sort.
Merci Annie Gasny, on vous retrouve évidemment à Paris lundi dans nos studios. Nous on va continuer à parler véritablement de ce tirage au sort, donc qui est maintenant une réalité. Et on a l'impression que vraiment voilà, ça commence presque maintenant, l'excitation elle augmente.
Elle commence effectivement parce que maintenant tout le monde est fixé, tout le monde connaît ses adversaires avec satisfaction. Ou pas, on attendait ce premier tirage à 24 également, donc c'était aussi un tirage au sort pour une fois avec une autre configuration, un format qui était absolument différent. Je pense qu'il a été plus concernant pour une grande partie du continent forcément, puisque 24 équipes étaient représentées. On imagine également le stress et l'anxiété certainement chez des nouvelles nations qui participent pour la première fois et qui vivent pour le coup, qui se retrouvent à la table entre guillemets des grands africains. J'imagine par exemple à Madagascar, j'imagine que les gens du côté de Madagascar ont dû vivre cet événement avec beaucoup de joie à la fois et aussi un peu de nervosité, parce que vous avez quand même des adversaires, des joueurs et des équipes qui sont habituellement en haut de l'affiche en Afrique, qui représentent régulièrement l'Afrique aux coupes du monde. Moi, j'ai bien aimé en tout cas l'orchestration, la cérémonie organisée par l'Égypte. C'est vrai que le cadre est franchement sans commun, est absolument,
ça, c'est unique, hein,
absolument exceptionnel. Ouais. Je trouvais que c'était un petit peu longué, mais bon, ça c'est normal. Il faut que les caciques puissent s'exprimer. Et après, petite facétie de ma part, je remets la palme du style quand même à Aladji Diouf, juste devant Mustapha Hadji. Pour le coup, qui était dans une tenue, je trouve, plutôt sympa et très africaine.
Sans la queue de cheval, malheureusement, Mustapha Hadji, ça manque un peu. Non, plus sérieusement, le début de la cérémonie, c'était vraiment un immense film postal, promotionnel pour le tourisme en Égypte, et dans les images et dans les discours. Donc ça, on a compris que l'Égypte voulait se servir de la CAN pour faire revenir les touristes. Bon, je pense que ça aurait pu passer de manière un peu plus concise et elliptique. Bon, c'était trop long.
En même temps, c'est toujours un petit peu fastidieux les tirages
mais là,
au sort,
c'était
beaucoup de discours.
C'est vrai. Là, c'était vraiment ça, particulièrement long, quoi.
En Afrique, on est de tradition orale.
Certes, mais on n'est pas obligé toujours d'aller dans le sens des clichés, quoi. On peut aussi changer. Ensuite, après, je sais pas si vous voulez qu'on parle déjà du tirage
en
lui-même.
On va y aller, Mais juste là, avant, Franck, ça vous fait déjà saliver d'avoir vu cette cérémonie, voir les noms des pays. Ça y est, vous vous projetez?
Ouais, ça fait saliver parce que effectivement, il y a un endroit qui est pittoresque, il y a un endroit qui est unique au monde. Donc c'est vrai que c'est le côté plaisant de l'affaire. Après, ils ont accumulé énormément de retard tout au long de la soirée.
Ça a démarré déjà avec un bon quart d'heure de retard.
Voilà, et ils ont couru après ce temps perdu tout le temps. Ça a bien été expliqué par Annie. Après, moi, sur les tableaux, tout ça, pour moi, des fois, c'est une impression de déjà vu. Je sais pas ce que vous en pensez, les camarades, mais honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vu ça 100 fois. Il y a pas de grande originalité. Il y a souvent de la danse. C'est des tableaux avec,
mais. Le cadre fait la différence.
Voilà, c'est le cadre qui fait la différence, les éclairages et tout ça. Ouais. Et puis certaines lumières et tout ça, mais en fait, on était tous, je pense, comme tout le monde, on attendait l'arrivée des assesseurs, parce que c'est comme ça qu'on doit les appeler, les assesseurs, et qui devaient procéder au tirage. Et c'est vrai que on a rongé notre frein, comme les sans doute les téléspectateurs, et tous les gens ailleurs.
Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que il y a eu un clip de rétrospective des grandes dates de la CAN. Ouais. Et ils ont volontairement omis certaines CAN.
Oui, ils ont résumé.
Comme si certaines victoires étaient plus importantes que d'autres et certaines CAN étaient plus belles que d'autres, alors que soit on fait rien, soit on fait tout, mais c'est très bizarre, je trouve, de faire des choix comme ça.
Après, on a montré les victoires de l'Égypte.
On n'a pas vu les Cannes gagnées par la Tunisie et l'Algérie dans le clip. Ouais.
Hein. Tiens, c'est bizarre.
Je dis ça comme ça.
C'est clair. Bonne remarque de Patrick.
Oui, c'est une. Bon, c'est de.
Bah, c'est on va dire c'est de... à l'arrivée. Quoi.
Non, mais non. C'est ça dénote d'un état d'esprit malgré tout, parce qu'on connaît les inimitiés entre notamment l'Algérie et l'Égypte, sportivement tout du moins. Et c'est dommage, mais.
C'est dommage, oui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas pour
ça
moi.
Ça ternit pas
les Cannes ont la même valeur.
Bien sûr. Même si t'as des Cannes à 3 ou 4 pays, franchement.
Ah, celle du tout début, oui.
Voilà. Mais en même temps, voilà, celle de la première de 57 était à 4 équipes, on en est à 24 maintenant. En même temps, s'ils commençaient à nous montrer chaque Cannes, on y sera encore, quoi. Hein.
Non, c'est la 32e, là. Hein. C'est-à-dire que ça faisait... ils auraient pu l'enlever complètement pour gagner du temps, ou exactement. Alors aller jusqu'au bout et être un minimum
on y était encore
juste
demain.
Et exhaustif. Non, voilà, c'est juste une remarque. Certains tableaux auraient pu être coupés de manière plus évidente, quoi.
En tout cas, donc, les boules sont enfin arrivées, les assesseurs aussi, et le tirage au sort a pu débuter donc de cette 32e CAN. On rappelle les faits, 32e CAN du 21 juin au 19 juillet, la première en été, 29 jours de compétition contre 23 en 2017, ça fait 6 jours de plus, c'est 52 matchs au lieu de 32, ça fait quand même
c'est cool.
Une différence, voilà, pour les boulimiques, ils sont servis.
Exactement.
Quatre villes de compétition, Le Caire, qui aura trois stades, Alexandrie, sur la Méditerranée, et les villes d'Ismaïlia et de Suez, proches du golfe de Suez. Alors, concernant les 24 équipes participantes, juste pour planter le décor, il y a 10 vainqueurs sur les 14. Donc, 10 vainqueurs présents et 3 novices, Madagascar, Mauritanie, Burundi, manque la Zambie, le Burkina Faso, le Togo, le Gabon, même si une CAN à 24, y a pas tout le monde quand même. On ne pourra pas voir Aubameyang, les frères Traoré du Burkina, Adebayor.
De toute façon, Aubameyang, même quand il était là, on le voyait pas. Donc, c'est pas très grave.
Petit sac par derrière de Monsieur Juillard. Limite carton rouge, mais on vous garde quand même. Alors donc, il y avait 4 chapeaux, avec le chapeau 1, celui des têtes de série. L'Égypte, le Cameroun tenant du titre, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. Et le résultat est... Ah, j'ai pas un... Voilà, les cymbales, boum! Allez, on attaque ce tirage au sort que nos auditeurs attendent, s'ils ne l'ont pas déjà en main, avec bien tout d'abord le groupe A. Le groupe A, évidemment, c'est celui de l'Égypte, le pays hôte, qui aura lieu au Caire. Il jouera contre la République démocratique du Congo, les Léopards, l'Ouganda et le Zimbabwe. Alors, je vais donner quand même tous les groupes quand même d'abord, hein, et puis après on va pouvoir détailler, parce que sinon ils vont m'en vouloir tous les autres auditeurs. Exactement. Qui sont pas concernés, ils vont dire dis-nous, je vous dis, allez, groupe B, Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi, groupe C, celui du Sénégal avec l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie, groupe D, Maroc, d'Hervé Renard, Côte d'Ivoire, qu'il connaît bien, Afrique du Sud et Namibie, groupe E, Tunisie, Mali, Mauritanie, le voisin et l'Angola, groupe F, Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau. On revient donc au groupe A, Égypte, RDC, Ouganda, Zimbabwe. On va chercher le groupe de la mort, mais j'ai l'impression que celui-là, il est pas là. Ah, il est pas évident, ce groupe.
Oh non, il est pas là. Il est pas là. Il y a une équipe qui va survoler les débats. Après, peut-être que vous serez pas d'accord. Enfin, on n'est pas là pour. Je suis là aussi pour mouiller. Je pense que l'Égypte est ultra favori dans ce groupe. Même en chapeau d'eau, elle a hérité de la République démocratique du Congo, qui a eu des difficultés à se qualifier. On verra lors de cette phase finale.
C'est une grosse équipe, quand même.
Non, mais si Franck, tout à l'heure, on parlait de l'Algérie. Si en chapeau d'eau, t'as Égypte, t'as l'Algérie dans le groupe de l'Égypte. Déjà, c'est pas la même chose. Ensuite,
Et pour la sécurité, c'est pas la même chose non plus.
Exactement. Ensuite, vous avez des équipes qui sont là en outsider, peut-être qu'il y aura des révélations parmi ces équipes-là, peut-être ça peut être l'Ouganda ou le Zimbabwe, mais je pense que c'est quand même une poule, pour moi, à mon sens, facile pour l'Égypte.
Franck, d'accord avec Nabil ? Ou méfiance quand même, l'Ouganda, Zimbabwe ?
Forcément, les pharaons chez eux vont jouer le rôle de leader et ils vont le jouer jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a plus seulement un Mohamed Salah, mais il y a d'autres joueurs parmi eux. Après, sur la République démocratique du Congo, je me souviens qu'une année, ils s'étaient qualifiés, ils avaient été les derniers, ils s'étaient qualifiés au bout de la nuit, la dernière journée, et puis ils avaient fait plutôt un bon parcours. Donc peut-être qu'ils peuvent se réveiller à l'occasion de cette phase finale. A priori quand même, et ils vont retrouver le Zimbabwe qui les a battus. Une équipe zimbabwéenne où il y a de belles individualités, c'est solide, ça joue bien au ballon. L'Ouganda, ça joue bien au ballon.
L'équipe de Sébastien de Sam.
Voilà, moralité, il y a... allez. Il y a trois équipes pour peut-être deux places, une sûre, puis peut-être.
Mais le Zimbabwe pourrait être en trouble fête. On l'a vu déjà à la dernière CAN. Ils avaient
le Zimbabwe a gagné à Kinshasa pendant les éliminatoires de cette édition. C'est une équipe en progrès. C'est une équipe qui avait déjà montré des belles choses, mais qui n'avait pas la solidité défensive nécessaire pour aller plus loin en 2017, mais qui a progressé. Et l'Ouganda, c'est pareil. C'est une équipe qui travaille bien. C'est un des pays d'Afrique où la stabilité au poste de sélectionneur est la plus importante. Il y a eu Bobby Williamson, l'Écossais, qui est resté 4 ans, si je ne me trompe pas. De Sabre, qui est quand même là depuis au moins un an et demi, 2 ans. Il y a eu Michaud aussi entre les deux, Sredojevic. Donc c'est un pays qui travaille sur la continuité. Les clubs ougandais sont quand même en progrès. Mais je pense que le Zimbabwe est plus redoutable si on prend les deux pays anglophones.
L'Ouganda a d'ailleurs terminé première de son groupe, hein, le groupe L. Bon, c'était pas un groupe super relevé avec la Tanzanie, le Lesotho et le Cap-Vert. L'Ouganda finaliste de l'édition 1972, ça date en effet...
78,
bon, ouais,
contre le Ghana.
Bon, ouais. Moi j'ai mal noté. Alors, en tout cas, ça date. En tout cas, ça date pas d'hier.
Ça date, c'est en Égypte aussi, donc ça tombe.
Voilà. Et en tout cas, vous parlez de Sébastien de Sabre. Eh bien, Antoine Grenier, tout à l'heure, a recueilli sa réaction en zone mixte.
Je pense qu'on est les challengers de ce groupe. Voilà, on a nos qualités. Quels que soient les opposants, de toute manière, sur une compétition, il faut avoir le nombre de points nécessaires pour passer, qui sera de 4 minimum, je pense, voire de 3. Donc nous, on va s'attacher à bien travailler et puis être prêt pour le prochain match. Ce qui est important, c'est qu'on va rentrer tôt dans la compétition. Je pense que c'est bien parce que les joueurs ne vont pas trop tergiverser et on va pouvoir être prêt assez rapidement. Maintenant, c'est une compétition. Et que ce soit l'Égypte ou que ce soit d'autres nations, de toute manière, ce sont des grandes nations du football et il faudra faire de grands matchs pour avoir des points.
Sébastien De Sabre qui répondait à Annie Gasnier. Donc Ouganda, Zimbabwe, Égypte et RD Congo. Donc l'équipe de Florent Ibenge qui va essayer bien de jouer les poils à gratter. C'est le terme employé justement par le coach des Léopards que l'on écoute, Florent Ibenge.
On va être les petits poussés. Mais bon, le petit poussé est malin. Donc on va tout faire. Il n'y a pas que l'Égypte, il y a le Zimbabwe qui est devant nous pendant la phase de qualification. On va essayer de prendre notre revanche. Et puis l'Ouganda qui nous est un peu inconnu. Mais voilà, on va faire tout notre possible pour pouvoir sortir de cette phase de poule.
Vous voyez la RDC tomber dans le groupe d'Égypte. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, coach? Vraiment, franchement.
Non, c'est très bien. C'est le pays organisateur. Il y aura du monde. Ça sera un match qui sera focalisé... dans tous les médias, donc voilà, c'est à nous de nous montrer à la hauteur de l'événement, tout simplement.
L'Ouganda, c'est un voisin, c'est un pays proche, c'est spécial de jouer un pays d'à côté.
C'est à nouveau un derby entre guillemets, donc c'est pas simple, mais bon, si c'est pas simple pour nous, il faut pas que ça le soit pour les autres en tout cas.
Florent Ibenge au micro d'Antoine Grenier. Voilà donc pour le groupe A qui se déroulera donc au Caire, à Alexandrie. On aura le groupe B avec le Nigeria, donc la Guinée de Paul Put, Madagascar et Burundi. Donc un ogre, le Nigeria.
Un outsider,
la Guinée, et deux novices. C'est assez étonnant de voir effectivement deux équipes qui vont disputer leur première CAN dans le même groupe. Effectivement, Madagascar aurait pu prétendre au groupe 4, effectivement, au dernier chapeau.
Mais Madagascar n'était pas dans le chapeau D. Voilà. Donc il était possible que deux équipes novices soient dans la même poule, et c'est ce qui s'est passé.
Et c'est le cas. Et donc... Bah là du coup, le Nigeria a l'air nettement favori de ce groupe là, non ?
Ouais, le Nigeria effectivement qui avait un peu disparu des radars entre 2014 et 2016-17,
absent des CAN 2015-2017,
qui s'est bien relancé en se qualifiant de manière assez convaincante pour la Coupe du Monde, qui a fait une Coupe du Monde
honnête,
pas mal, honnête, ouais. qui est à 4 minutes près, ils étaient en 8e de finale.
Ouais,
et je trouve qu'ils continuent de progresser avec l'incorporation de jeunes joueurs qui apportent vraiment quelque quelque chose et c'est pas mal. C'est la poule est à leur portée. La Guinée a fait une belle campagne de qualification. Elle est qualifiée première devant la Côte d'Ivoire. Quand même, il faut le saluer. Et pour moi, les deux novices, bon, ils ont montré des belles choses. Avec quand même un peu des circonstances favorables. Je donne un petit avantage au Burundi sur Madagascar parce que c'est une équipe qui est, me semble-t-il, un peu plus compacte que Madagascar, même s'il y a des problèmes défensifs dans cette équipe burundaise. Mais je pense que c'est un peu meilleur au niveau attaque, notamment.
Le Burundi qui est sorti deuxième de sa poule derrière le Mali, mais devant le Gabon, c'est quand même pas rien.
Et invaincu.
Et invaincu, 2 victoires, 4 nuls, comme quoi c'est une équipe accrocheuse, quoi. Franck, là, entre les deux petits, justement, là, on a l'impression qu'il y a une place à prendre, parce que on rappelle le ouais. système, hein, quand même, de qualification de cette nouvelle CAN A24. Les deux premiers des 6 groupes vont en 8e de finale, et les 4 meilleurs 3e, donc 4 sur 6, passent en 8e de finale. Donc là, bon. On peut se dire que peut-être Madagascar ou Burundi, si la logique est respectée que le Nigeria et la Guinée occupent les 2 premières places, peuvent prétendre aller plus loin.
Ouais, alors c'est ces deux équipes qui s'affrontent lors de la journée 2 de cette poule, hein, le 27 juin, Madagascar et le Burundi. Le Burundi va voler un peu la vedette au Baréa de Madagascar, puisque en fait, en ouverture, le 22 juin, ils affrontent le Nigeria. C'est une belle affiche pour eux, je pense que ça va être beaucoup de pression malgré tout, parce que voilà, ils vont vouloir on sait très bien, quand une équipe arrive dans une phase finale, une équipe néophyte, une équipe pucelle, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, et souvent c'est sur le premier match. Alors à côté de ça, il y a un Guinée-Madagascar dans cette même première journée qui paraît un petit peu plus équilibré. Toujours est-il que bon, faut avoir un œil sur ce match entre les Baréa et les Intamba Murugamba, donc de Burundi, du 27 juin. Après, pour le reste, je suis d'accord, hein. Il y a le Nigeria devant, la Guinée certainement pour essayer de gratter une deuxième place. C'est rigolo, c'est que la Guinée se retrouve comme en 2006 à Alexandrie. C'était déjà son groupe, le groupe d'Alexandrie à l'époque, qui était guidé par Patrice Neveu. Et voilà, ils sont de nouveau basés dans la ville côtière.
De novice, donc Burundi et Madagascar. Madagascar que connaît bien le coach du Nigeria, le franco-allemand Gernot Rohr, il va vous expliquer pourquoi.
Ça sent pas de jouer contre des pays qui sont là pour la première fois, comme le Burundi, Madagascar, mais aussi une très bonne équipe de la Guinée. Ce qui est spécial pour moi, c'est Madagascar, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Ma femme est malgache, mes 2 enfants sont germano-malgache ou franco-malgache, mais en France, donc ça va être quelque chose. Il va y avoir de la passion, pas seulement dans les stades et dans les 2 pays, mais aussi à la maison.
Vous le saviez, ça, que la femme de Gernot Rohr était malgache?
Non, enfin, après, je m'intéresse pas à la vie privée de Gernot Rohr, très, très sincèrement. En revanche, je vais quand même juste glisser un mot sur le Nigeria. Je pense que Franck partage cet avis. Une équipe dont on parle pas beaucoup, qui, à mon avis, est une équipe de tournoi, qui risque d'être redoutable lors de cette compétition.
Qui a gagné 3 fois la CAN.
Ouais, dernière fois en 2013 sous Stéphane Keshi. Voilà.
Ça travaille bien. Patrick a raison de parler d'incorporation de jeunes. Je pense notamment à Victor Osimhen, qui est en train de réaliser une saison fantastique en Belgique.
Samuel Chukwueze de Villarreal aussi, qui est très
franchement
bon.
Ce que je souhaite à personne, de croiser la route d'un Nigeria en forme.
Voilà pour le groupe B, donc Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi, Alexandrie. Le groupe C a lieu au Caire, un groupe qui doit vous intéresser particulièrement. Nabil Djellit, avec le Sénégal tête de série, l'Algérie vainqueur 1990, le Kenya de Sébastien Minier et la Tanzanie. C'est pas ça le groupe de la mort quand même.
Non, c'est pas le groupe de la mort. Je vais parler de l'Algérie et un petit peu peut-être du Sénégal, puis je vais laisser certainement Franck prendre de l'altitude du côté du Kenya, voire de la Tanzanie. Après, l'Algérie, c'est une équipe qui est assez discrète sur les dernières CAN. Elle s'est plutôt, à l'instar peut-être du Nigeria, plutôt préoccupée, même si le Nigeria a gagné la CAN en 2013, plus préoccupée des Coupes du Monde. Elle part sur un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur qui s'appelle Jamel Belmadi, dont le principal défi est enfin de faire jouer un peu tous ses talents algériens et en faire une vraie équipe. C'est un vrai outsider de cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle joue en Égypte. Elle aura certainement une caravane de supporters qui sera au rendez-vous. Le favori logique, pour moi, c'est évidemment le Sénégal dans cette poule. Ces deux équipes sont déjà rencontrées sur les deux dernières CAN, notamment à la CAN 2015 où l'Algérie avait dans sa poule battu. Elle était alors dirigée par Christian Gourcuff, avait battu le Sénégal d'Alain Giresse, si je me souviens bien.
3-1.
À la dernière CAN, ils sont retrouvés pour un match qui comptait pour du beurre, excusez-moi l'expression, surtout du côté algérien, puisque ils avaient fait deux partout sur ce match de poule. Donc on attend les stars algériennes enfin au rendez-vous, on attend enfin que les Algériens prennent conscience que gagner en Afrique, c'est aussi important pour leur carrière. Je pense à Mahrez, Brahimi. Et attention à surveiller de près quand même peut-être un joueur qu'on ne connaît pas en Afrique, enfin surtout en Europe, mais qui est aujourd'hui l'attaquant titulaire de l'équipe d'Algérie, qui marche sur l'eau du côté du Qatar, un peu comme Hassan Mouadjian le faisait du côté des Émirats, qui s'appelle Bagdad Bounedja, qui pourrait être une des attractions de cette compétition.
Patrick, vous allez prendre de la hauteur.
Ouais, je vais prendre de la hauteur. Effectivement, c'est une poule qui paraît très déséquilibrée avec deux équipes, le Sénégal mondialiste, qui monte en puissance de manière pas forcément éclatante, mais qui me semble quand même monter en puissance, qui a comblé certains manques, notamment au poste de gardien de but. Franck ne me démentira pas. L'Algérie, dont Nabil vient de longuement parler avec brio, mais les deux autres équipes, au contraire, ce sont deux équipes qui n'avaient pas joué la CAN depuis longtemps. Le Kenya, ça date de 2004, la dernière participation, si je ne m'abuse. Et la Tanzanie, ça date de 1980. Mais je donnerai un petit avantage à la Tanzanie si je dois parler des deux gros outsiders du groupe, parce que c'est une équipe qui a régulièrement fait des bonnes performances, qui me semble montrer peut-être plus de choses que le Kenya, qui est passé dans un groupe réduit à 3 par le forfait de la Sierra Leone, et qui a un joueur fantastique en attaque qui s'appelle Mbwana Ali Samata, qui joue à Genk et qui est aujourd'hui le meilleur buteur africain évoluant dans les championnats européens avec 30 buts.
Franck Simon, le Kenya, vous connaissez bien cette sélection dirigée par Sébastien Minier, un coup à jouer ?
Alors effectivement, si on s'arrête à cette poule qui a été diminuée après le forfait de la Sierra Leone, on a l'impression que voilà, ils ont battu le Ghana 2-0, ils auraient les moyens de jouer un coup. C'est leur ambition, hein, c'est d'aller en huitième de finale, mais à côté de ça, effectivement, aujourd'hui, la nation qui monte en Afrique de l'Est, c'est la Tanzanie, même si derrière, il y a le Burundi qui est pas très loin. Et aujourd'hui, la Tanzanie, elle surfe à la fois sur, effectivement, les perfs de Mbwana Ali Samata dont parlait Patrick, et puis les performances de son club, le Simba Sporting Club de Dar es Salaam, qui est actuellement en quart de finale de la Ligue des Champions, qui se déplace d'ailleurs demain
À Kamalondo.
Voilà, à Kamal City, à Lubumbashi. Il y a pas mal de joueurs de Simba qui sont dans cette équipe nationale des Taifa Stars. Il y a un sélectionneur qui n'est pas tanzanien mais qui est nigérian, qui s'appelle Emmanuel Amunike, qui connaît bien la Coupe d'Afrique des Nations puisqu'il l'a remportée en 94 avec les Super Eagles. Et je crois qu'il a su donner vraiment une identité et un style offensif à cette équipe. Et aujourd'hui, la menace pour le Kenya, c'est la Tanzanie. Attention quand même à l'Algérie face à cette équipe qui est assez athlétique.
Ils ont déjà croisé, qu'ils ont déjà mis en difficulté.
Voilà, qu'ils avaient battu, je crois, à l'époque de Benchika, me semble-t-il.
Ouais, à l'époque de Benchira, c'était... Mais encore une fois, c'est vrai que les deux mondialistes, Sénégal et Algérie, paraissent au-dessus.
La Tanzanie, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie empreinte néerlandaise sur le style de jeu de l'équipe nationale. Il y a eu pas mal de sélectionneurs néerlandais qui ont donné un style
et brésilien aussi.
Un petit peu à la néerlandaise, je trouve, à cette équipe. Et c'est souvent assez agréable à regarder jouer.
Une réaction dans ce groupe, elle est kenyane, le sélectionneur du Kenya, Sébastien Minier. Son discours, on n'a rien à perdre.
On n'a absolument rien à perdre. On joue le Sénégal, qui est la meilleure équipe africaine au classement FIFA. L'Algérie, qui est un ogre. Et puis la Tanzanie, qui est un derby. Donc ça va être trois matchs formidables. Ça va être une vraie fête du football. Encore une fois, je suis content que mon équipe participe à cette grande fête. Puis maintenant, il va falloir assumer et essayer de passer ce premier tour.
Sébastien Minier, content d'être là. Franck Simon, vous me tendez une fiche.
Ouais, je tendais une fiche parce que je regardais, en fait, c'est le même jour, Sénégal-Algérie, le 27 juin, et le derby est-africain, Kenya-Tanzanie aussi, donc voilà, ça va être, on va en tout cas assister à de belles rencontres, c'est bien d'avoir dans ce premier tour, là on n'est qu'à la moitié du premier tour, on a fait les trois premiers, mais de très très belles affiches continentales.
Clin d'œil de l'histoire, et Franck va être d'accord avec moi, ne pas oublier que pour l'Algérie, le Kenya est un mauvais souvenir, parce qu'en
96,
le Kenya avait éliminé en tour préliminaire l'Algérie à la qualification à la Coupe du Monde en France.
Ouais. Enfin, l'Algérie s'est éliminée toute seule à Nairobi, hein, n'importe quoi.
On va passer au groupe D, avec le Maroc, avec la Côte d'Ivoire, avec l'Afrique du Sud et la Namibie. Bon, c'est celui-là, le groupe de la mort.
On y est, ça y est.
Évidemment.
On y est. Ah, enfin. Vous êtes venu, Eric. Non,
Franck, j'ai des amis marocains qui m'ont dit, on en a marre de tomber contre la Côte d'Ivoire.
Ben, c'est encore raté, oui.
Bah, ils ont l'avantage psychologique, ils vont pas se plaindre. Ils ont sorti la Côte d'Ivoire, ils sont venus les battre aux Féliciens, ouais, 2-0.
Mais peut-être que ça peut tourner, parce que c'est peut-être une autre Côte d'Ivoire aussi, Franck, avec... Peut-être qu'il est reparti
c'est
sur d'autres bases.
Un autre Maroc.
C'est compliqué.
C'est la troisième fois de suite. Donc, premier tour de la CAN 2017, éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 et à présent, CAN 2019 entre le Maroc et la Côte d'Ivoire.
Il y a un aspect en plus, c'est un peu le derby de Hervé Renard. Enfin,
voilà.
Si on
c'est
peut
Renard
dire.
Contre son adjoint en plus.
C'est le Renard Rico. Non, mais c'est un vrai choc. Et deux équipes qui ont des résultats pour moi un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire ça se passe bien, les qualifications s'enchaînent, mais il manque sur les dernières phases finales qu'elles ont jouées, il a toujours manqué un petit quelque chose. Et je trouve que peut-être que cette CAN peut leur permettre de franchir ce palier. Le Maroc a besoin d'un attaquant qu'ils n'ont toujours pas trouvé. C'est un peu la dernière pièce qui leur manque. Et la Côte d'Ivoire a besoin de réussir un peu l'amalgame entre différentes générations. Est-ce que Nicolas Pépé et Wilfried Zaha peuvent être les leaders de la Côte d'Ivoire
pour à condition de les aligner ensemble. Hein.
Déjà, et puis pour l'instant, quand ils sont pas alignés ensemble, ils n'ont pas encore pris le costume du leader.
Mais t'en as d'autres. T'as d'autres leaders. Après, oui. T'as d'autres leaders dans cette équipe. Dieu merci. Après, il y a les leaders.
Est-ce que
Gervinho
sera là? Oui. Sans doute que
oui.
Il
y a une question d'équilibre à trouver, effectivement, chez les éléphants. Et après, le Maroc est quand même, avant même le tirage au sort, on le disait quand même, le Maroc est l'un des grands favoris avec le Sénégal. On laisse de côté l'Égypte parce qu'ils organisent et ils ont le petit facteur domicile, on va dire. Mais le Maroc me paraît quand même, avoir dans beaucoup de lignes, beaucoup de secteurs.
C'est une équipe que Hervé Renard a construit, a fait progresser. On pensait qu'il avait atteint un peu le max lors de la dernière CAN, mais il a continué, il les a qualifiés à une Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, c'est vrai que leur parcours a été symbolisé par une défaite d'entrée face à l'Iran.
Symbolisé par de la malchance aussi. Hein. Ils n'ont pas été aidés.
Ouais, mais si tu bats l'Iran, tu fais pas le même tournoi. Et le premier match est extrêmement important. Alors j'entends ensuite effectivement
l'arbitrage
que
un peu
le VAR n'en leur a pas été favorable, mais ils ont plutôt montré des belles choses en termes de football face au Portugal et face à l'Espagne. Un bémol peut-être à mettre. Alors Patrick a parlé effectivement de cette histoire d'attaquant, d'autant qu'Enesri, qui a commencé à émerger, s'est blessé du côté de Leganés, si je dis pas de bêtises.
Il devrait revenir, mais bon, ça va. C'est sûr que c'est pas idéal de se blesser à 2 mois et demi ou 3 mois.
Je ne sais pas si c'est un facteur qui peut être pris en compte dans une CAN, mais en tout cas, beaucoup de joueurs titulaires de cette sélection marocaine se sont récemment exportés dans le golf. Je ne sais pas si ça influe sur leur compétitivité ou pas, mais la moitié de l'équipe quasiment qui était titulaire du côté de la Coupe du Monde en Russie aujourd'hui évolue à l'instar de leur capitaine Mehdi Benassia. Dans le golf, quand vous avez un ou deux joueurs qui jouent en Arabie Saoudite,
ils vont jouer
au Qatar.
La Coupe d'Afrique, Nabil. Hein. Ils vont pas aller jouer la Coupe du Monde non plus.
Je dis ça, je dis rien.
C'est vraiment dramatique. Ouais, voilà. Je pense. Et même au niveau climatique, ils seront habitués à des fortes températures.
Après, je suis d'accord avec toi, mais en termes, quand tu pars là-bas, t'es souvent en pré-retraite. Et ton implication au niveau d'intensité, il est pas le même non plus. Je dis pas que c'est une
expérience. Ça, c'est ce que tu dis, mais je pense qu'on en aura le.
On verra comment ça va se passer.
Je pense que là, t'en es en train d'anticiper sur le comportement possible de joueurs.
Et puis cette CAN, à cause du Ramadan, elle va commencer assez tard, donc la phase préparatoire va être longue, donc je pense que c'est une toute autre séquence, que ça va pas jouer juste après la fin des championnats, donc je pense que c'est à relativiser un peu. Après, il y a vraiment dans ce groupe, il faut parler de l'Afrique du Sud.
On parlait un petit peu tout à l'heure, d'abord on va écouter Hervé Renard, qu'Annie Gasny a interrogé tout à l'heure, match forcément spécial pour lui qui avait gagné la CAN 2015 avec les éléphants.
On les a battus à éliminer à la Coupe d'Afrique 2017. On a réussi à se qualifier pour le Mondial en allant gagner à Abidjan. Donc ça sera une nouvelle confrontation contre la Côte d'Ivoire. Et puis il va surtout falloir se méfier énormément de l'Afrique du Sud, qui est une équipe avec de jeunes joueurs, qui est capable d'aller très très vite, beaucoup de vitesse dans cette équipe. Et puis la Namibie, je vais juste vous donner une petite anecdote. J'étais entraîneur adjoint au Ghana en 2008, on était pays organisateur. Et on avait eu beaucoup, beaucoup de mal à battre cette équipe de Namibie. On avait gagné un 15-0 et donc voilà, on sait à quoi s'attendre. De toute façon, quand on a des ambitions dans une compétition, il faut être concentré, bien travailler et puis on aura ce qu'on mérite.
Hervé Renard, que l'on entendra plus en longueur lundi avec Annie Gasnier dans Radio Foot International. Hervé Renard qui pointe l'Afrique du Sud et la Namibie qui pourra jouer les troubles faites, Franck.
Namibie qui était en quart de finale du dernier Chan au Maroc. Une compétition qui était supervisée par Hervé Renard, parce que même s'il n'était pas sur le banc, il était en tribune et il suivait les performances de l'équipe dirigée par Jamal Salami. Il se souvient sans doute de ce quart de finale très poussif des Lions de l'Atlas locaux contre les joueurs de Ricardo Manetti, parce que c'est le même sélectionneur en fait, hein, qui coiffe et l'équipe nationale A et des Brave Warriors et l'équipe qui était au Chan.
Mais en c'est vérité, un arbitre la Namibie dans cette histoire.
Oui, parce que
les trois, c'est Maroc, AF Sud et le troisième.
Et la Côte d'Ivoire. Ouais.
Si la Namibie accroche un des trois. S'ils accrochent un des trois, ils peuvent les mettre en énorme difficulté, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'ils vont avoir un rôle d'arbitre.
Mais écoutons Patrick sur l'Afrique du Sud. On va peut-être être d'accord sur l'Afrique du Sud.
Non, mais sur l'Afrique du Sud, c'est une sélection qui a souvent déçu et qui est vraiment depuis le début des années 2000, à chaque fois on a un petit espoir, à chaque fois c'est une déception. Mais cette fois-là, moi j'ai été frappé par le match contre la Libye, le match qui était décisif, qui se jouait à Sfax. Donc
vous
n'avez
pas été
neutre.
Frappé par le match contre les Seychelles?
Non, pas celui-là.
Pas celui-là, d'accord.
J'ai été frappé de torpeur sur celui-là.
Voilà.
Mais j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à faire une vraie performance d'équipe sur ce match contre la Libye, à réagir vraiment en costaud, alors qu'ils avaient quand même... ils prenaient pas mal de coups. C'était un match qui a dû finir à 50 fautes sur les 90 minutes. Et il y a un joueur qui a à ressortir du lot, et c'est sûrement à lui que Hervé Renard pensait quand il parlait de beaucoup de vitesse, c'est Persito. C'est un petit
Tao,
qui joue à Royal Union Saint-Gilloise en D2 belge, prêté par Brighton. Il a été acheté par Brighton en Première Ligue et qui est un joueur fantastique. C'est l'ailier à l'ancienne, un peu insinuant, un petit peu virevoltant, déroutant et qui met des beaux buts et qui est peut-être une des stars possibles de la CAN.
Le groupe E maintenant, ce sera à Suez, un beau groupe avec la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et l'Angola.
Pas facile.
C'est pas. Il y a des retrouvailles en plus. C'est pas un groupe de la Morbis.
Moi, je trouve que c'est un des groupes les plus compliqués. Très sincèrement, c'est un groupe homogène. Ah bon, non, t'es pas d'accord, Franck? Ah bon, moi je trouve que c'est un groupe qui est pas simple.
C'est homogène, mais
c'est pas très fort.
Non. Oui, mais les favoris, pour moi, c'est le Mali.
Ah oui, pas la Tunisie alors.
Je pense que la Tunisie, c'est pas une équipe de tournoi. Je le ressens comme ça sur ce coup-là. Alors c'est vrai qu'Alain Giras vient d'arriver. Donc il connaît peut-être pas notamment totalement le potentiel.
Enfin, il connaît la Coupe d'Afrique.
En Afrique, c'est quand même une équipe de tournoi que le Maroc et l'Algérie, Nabil. Hein. Pardonne-moi.
Une équipe d'éliminatoires et pas forcément de.
Et de matchs amicaux.
Ils ont gagné une CAN quand même la Tunisie.
Ouais, ça commence à remonter là quand même. C'était chez eux.
Leur dernier carré c'est quand? Parce que moi je m'en souviens pas. Celui de l'Algérie ou du Maroc, je peux te dire quand c'était leur
2006,
dernier carré.
2006.
L'Algérie c'était en 2010. 2004, le Maroc, on les a vus récemment aussi lors de la dernière Coupe d'Afrique.
Non, mais sans doute. Mais la Tunisie, quand même, c'est une équipe qui a un certain savoir-faire. Pour moi, c'est une poule très homogène. Ouais. La Mauritanie va retrouver l'Angola, comme l'a dit Franck, qui était déjà son adversaire en poule.
Avec une victoire de part et d'autre. Hein,
voilà.
Battu l'autre.
Le Mali, il y a quand même un aspect derby aussi pour la Mauritanie, puisque c'est les pays frontaliers, le Mali et la Tunisie, pour la Mauritanie. Le Mali, c'est une équipe qui est plutôt tiré par ces équipes de jeunes qui ont gagné, je crois, la CAN des moins de 17 ans, qui est l'ADN de l'équipe malienne a évolué avec le temps vers un football un peu plus technique et moins physique que ça ne l'était il y a 10 ou 15 ans.
Tout à fait,
Et c'est une équipe en devenir, mais pour moi, elle n'est pas encore prête pour gagner une CAN.
Elle peut profiter de ce tournoi quand même pour
passer un cap.
Il y a quand même de la qualité.
Je suis d'accord.
Marega, il y a quand même largement de quoi faire. Hein.
Je suis d'accord avec toi, Nabil, mais l'expérience est plutôt du côté de la Tunisie quand même.
Non, mais la Tunisie,
l'expérience
c'est
ou l'expérience.
Les deux. Non, mais c'est la même chose.
La Tunisie, c'est sérieux, c'est bien organisé. Msakni, ça dépendra également du retour en forme de Msakni ou pas, qui peut changer cette équipe, mais c'est un groupe qui est compliqué, je trouve, et c'est difficile de savoir. Je trouve qu'il n'y a pas une hiérarchie si claire que par rapport à d'autres poules.
Voilà. On rappelle juste que la Tunisie a entraîné le Mali lorsqu'ils avaient gagné le bronze en 2012. Donc,
et depuis, ils ont coulé.
Est-ce que c'est le départ d'un JS ? On ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, vous parlez de poule homogène. C'est vrai qu'il faut parler de l'Angola, quand même, qui a terminé première du groupe I devant la Mauritanie, et devant le Burkina Faso. Alors, c'est pas rien. Quand même.
Mais l'Angola, c'était l'équipe à éviter en numéro 1 dans le pot 4. Moi, je vous le dis comme je le ressens.
Vous les avez pas cités non plus, quand même.
C'était le Zimbabwe ou l'Angola, les deux meilleures équipes du pot D pour moi. Ouais.
Mais donc qui sort personne, qui est éliminé de ce groupe?
Personne ne se méfie. La Mauritanie, a priori.
Ça me paraît un peu juste.
Première canne,
ça paraît juste.
L'Angola va être dangereuse.
L'Angola, effectivement, peut aller chercher même des deux premières places.
Les Palancas Negras.
Ouais. Groupe passionnant, en tout cas. On termine par le dernier groupe, le F. Ah. Il se jouera à Ismailia avec le Cameroun, le tenant du trophée, les Black Stars du Ghana, le Bénin, les Écureuils et la Guinée, Bissau. Là, on a deux gros et deux petits.
Enfin, petit, le Bénin, je le mettrais quand même un petit peu au-dessus de la Guinée-Bissau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'ils ont fait des éliminatoires plutôt intéressants en termes de jeu, ils ont éliminé notamment le Togo. Je les ai vus face à l'Algérie, loin d'être ridicules. Je trouve qu'ils ont quand même un effectif plutôt de qualité, avec des joueurs. Il n'y a pas de super joueurs, mais c'est des joueurs avec un niveau globalement qui est homogène. Après, moi, quand même, j'ai une interrogation sur le Cameroun, très sincèrement, pour être franc avec vous. Alors, effectivement, c'est étonnant du titre. On sait qu'ils se métamorphosent lors des Coupes d'Afrique des Nations, mais ils peuvent être capables de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit.
Ouais, alors sur le Cameroun, c'est un peu particulier parce qu'ils ont joué cette phase éliminatoire en pensant qu'ils étaient sur les 5-6e des matchs, en pensant qu'ils étaient qualifiés, donc les matchs n'avaient pas trop d'enjeux. Ouais. Et finalement, on leur a dit non, il va falloir se qualifier sur le terrain. Donc le match contre les Comores est un match couperé. Ils ont bien joué ce match couperé, hein, et c'est peut-être leur meilleur match de la série.
Et depuis longtemps.
Mais après, c'est un peu court pour juger vraiment de l'équipe et surtout du sélectionneur, de l'emprise du sélectionneur sur l'équipe. Est-ce que vraiment c'est les 11 meilleurs? Bon, c'est une autre question. Le Ghana, après, j'ai récemment vu l'amical là contre la Mauritanie. C'est plus une équipe à réaction, je trouve. Après, il y a Thomas Partey qui est vraiment en gros progrès et qui est un joueur assez fantastique. Mais ça fait pas toute l'équipe. Et après, Bénin, Guinée-Bissau. Le Bénin est fort à Cotonou, enfin à domicile, moins quand il se déplace.
Première CAN depuis 2010.
Et les Likaon, enfin les Djourtous de Guinée-Bissau. Je sais pas, c'est un peu une inconnue. Ils sont passés dans une poule quand même très faible.
Devant la Namibie, quand même premier.
Oui, mais c'était une poule où le total de points était faible.
On les a vus ensemble contre
le Burkina Faso l'année dernière.
France, voilà. Bon, ça n'avait pas
c'était
été.
C'était pas exceptionnel.
C'était pas transcendant, malgré tout. Ils ont un peu plus d'expérience. Ils ont quelques joueurs intéressants comme Zezinho, leur capitaine.
Piketty.
Après, le Cameroun. Tony Silva. Le Cameroun dans ce groupe. Bah, le Cameroun, les joueurs ont l'ADN. Coupe d'Afrique des Nations.
Des compétiteurs.
Des Lions. Donc, arriver en phase finale, tout est possible. Il y a deux ans en arrière, il n'y a pas grand monde qui aurait parié sur eux. Et pourtant, ils sont allés au bout. Le Ghana me paraît un peu plus faiblos cette année. Et c'est pas Partey qui va les emmener jusqu'au bout.
Non, c'est ça.
Voilà. Et donc, du coup, ça reste un groupe avec le Cameroun un petit peu au-dessus des autres. Et puis après...
Pour moi, c'est un groupe assez faible.
Oui.
En trompe-l'œil, parce que c'est des équipes prestigieuses, en tout cas pour le Cameroun et le Ghana, d'anciens vainqueurs, mais pas à leur meilleur, toutes les deux.
Voilà, on a passé en revue les six groupes de cette CAN 2019. Donc, on rappelle, les deux premiers se qualifient pour les huitièmes et les quatre meilleurs troisièmes passent également. 16 qualifiés donc sur 24 pour le tour suivant. Mais à quoi il sert ce premier tour pour éliminer 8 équipes seulement? Je comprends pas bien. Vraiment, ça va être passionnant ce début de CAN.
Eric, c'est pas à nous qu'il faut poser la question. Il faut poser la question aux décideurs de la CAN.
Est-ce que ça va être vraiment intéressant, du coup, les premiers matchs, le premier tour?
Non, il y a quand même des affiches, Eric.
Ouais.
Là, vous prenez sur.
En fait, il n'y aura pas beaucoup d'enjeux, presque. Quasiment tout le monde se qualifie.
Si, quand même.
Quasiment tout le monde passe.
Dieu merci, le tournoi. Le premier tour est sauvé parce que t'as des affiches. T'as effectivement Nigeria-Guinée, t'as du Maroc-Côte d'Ivoire, Tunisie-Mali, Sénégal-Algérie. Cameroun, Ghana, il y a quand même à chaque fois dans chaque groupe au moins une belle affiche.
Une grosse affiche.
Voilà, ça va sauver un petit peu ce premier tour.
Après, c'est comme l'Euro, ça risque de. Je ne vais pas être politiquement correct, mais ça risque de niveler le niveau sportif vers le bas. On peut pas dire le contraire. Et à contrario, on peut avoir une belle surprise comme on avait eu le Pays de Galles ou l'Islande à l'Euro. Bon, l'Islande qui a resombré dans la médiocrité depuis, mais qui à l'Euro était brillante. On peut avoir, je sais pas quelle sera l'Islande de l'Afrique, mais on peut
ça
en
peut
avoir.
Le Zimbabwe,
ça peut être la Tanzanie, le Zimbabwe, peut-être le Burundi.
Tout est possible.
Tout est voilà, les jeux sont ouverts en tout cas.
Après, 52 matchs quand même, ça fait pas mal, hein, évidemment. Est-ce que le public va suivre alors même s'il suit pas forcément leur décal.
Si c'est comme en 2006, on aura beaucoup de militaires en survêtements bariolés. Voilà.
Sachant qu'en plus deux des trois stades du Caire sont des stades militaires.
Ouais. Alors, justement, pour sentir un petit peu s'il y a déjà une effervescence en Égypte, on va se tourner vers l'un de nos envoyés spéciaux, Antoine Grenier, donc qui a suivi notamment ce tirage au sort, qui est sur place depuis mardi, même lundi soir, au Caire. Antoine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir les amis.
Comment vous avez senti les choses alors sur place? Est-ce que déjà les gens, vous sentez qu'ils s'intéressent déjà à cette CAN, ils ont envie de la voir, de la vivre?
On sentait surtout que ce tirage au sort était très attendu. Les gens faisaient des pronostics. Évidemment, ils voient tous l'Égypte aller au bout. Mais ce qu'ils voulaient, c'était savoir dans quelles conditions l'Égypte irait au bout. Et ce que je peux vous dire, c'est que lors de ce tirage au sort, il y a eu des applaudissements au moment où la RDC, le dernier adversaire de l'Égypte, est sorti. Tout le monde était très très satisfait de voir que le groupe était extrêmement abordable pour les Égyptiens. Quand vous interrogez les gens dans la rue, ils attendent cette CAN, c'est évident, il y a un vrai, vrai engouement qui commence à naître, c'est sûr, avec évidemment la certitude que l'Égypte gagnera. Ça aide aussi à avoir le sourire déjà.
À se passionner. Évidemment, pour cette CAN, donc, il y aura une grande particularité, c'est que ça sera la première qui va se jouer en été. Qu'est-ce que ça va changer?
Ça va changer beaucoup de choses.
Voilà,
ça va changer l'état de forme des joueurs. Au bout d'une saison, votre état de forme n'est pas exactement la même. Les préparations également ne sont pas exactement les mêmes. Vous allez avoir peut-être beaucoup plus de blessures qu'en cours de saison. Donc ça va être à l'instar de ce qu'on voit en Coupe du Monde. Hein. Vous avez souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est que parfois, on le voit, les stars arrivent rincées. Vous avez peut-être, je le souhaite pas, mais Mané et Salah, les deux joueurs de Liverpool, ils sont concernés par le championnat d'Angleterre avec un sprint final haletant face à Manchester City. Ils sont également encore en lice en Ligue des Champions. On ne sait pas, ils vont peut-être aller au bout, ils vont peut-être aller en demi-finale. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont jouer beaucoup de matchs. Je pense que les états de forme vont être disparates et peut-être... Patrick parlait de nivellement des valeurs, ça peut effectivement contribuer à ce nivellement.
Du coup, peut-être que les sélectionneurs vont se dire, eh ben, le premier tour, il va servir peut-être à, on va y aller mollo, en douceur, en tout cas pour les favoris, et on va gérer vraiment les organismes des joueurs. Non,
ah, très certainement, ils vont avoir un œil déjà sur la préparation, à quel moment récupérer les joueurs à la fin des compétitions en Europe, puisque beaucoup de joueurs sont en Europe. Et puis comment amener les joueurs? Est-ce qu'ils vont disputer plusieurs matchs de préparation? Un seul match? Est-ce qu'ils vont venir s'installer très vite en Égypte ou dans les pays voisins? Est-ce qu'ils vont aller en Turquie? Est-ce qu'ils vont être au Maroc? On ne sait pas encore tout ça. Il y a des tractations en ce moment même, je pense, au Caire, entre les différentes fédérations et les sélectionneurs, justement pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc on va leur laisser un petit peu de temps. Mais je voulais juste revenir sur un aspect que vous avez brièvement évoqué, Eric, c'est le public. On va être dans un pays où on a découragé le public de venir au stade depuis quand même pas mal d'années. Et aujourd'hui, on lui dit, faut revenir parce que c'est la Coupe d'Afrique. Ce qui va se passer, c'est qu'ils seront là pour les pharaons. Pour le reste, qu'est-ce qui va se passer?
Ça, c'est la bouteille à la mer. Il y aura peut-être du soutien pour les pays limitrophes, comme l'Algérie, qui ont les moyens de se déplacer, ou la Tunisie, ou le Maroc.
Voilà, le décor est planté. La CAN 2019 avec ce tirage au sort. Vous pouvez voir tous les commentaires de ce tirage au sort sur la page Afrique Foot de RFI, qui sera sur place évidemment pour vous faire suivre cette 32e édition. Merci à Thibaut Baduel, à Sergi De Oliveira, à Antoine Grenier, à Annie Gasnier, que vous retrouverez lundi. Il y a Mondial Sport également ce week-end, samedi et dimanche. Bonne soirée.